Avant de démarrer cette conférence, pour présenter un petit peu en deux mots l'action du CACHEBI, Association des parents d'élèves et enseignants de l'école publique bilingue. On va fêter cette année les 30 ans de création de l'enseignement public, qui est né à Sarre, il y a 30 ans exactement, en bilingue. Ça a été la première section de l'école publique bilingue en France, à Sarre, qui ensuite a donné un courant, un développement qui a eu ensuite en Alsace, en Bretagne, en Corse plus récemment et dans la partie occitane également. Donc l'association s'est très vite structuré son action et puis ça s'est fait un petit peu naturellement, d'abord en zone urbaine et l'enseignement bilingue à l'école publique s'est surtout développé dans la zone urbaine de Bayonne, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Et après Sarre, qui était, on va dire, un village à forte identité basque, où il y avait de la transmission familiale, donc du basque déjà présent dans les familles, et qui est toujours présent, sur la côte, ça a démarré essentiellement dans les quartiers populaires, les quartiers de HLM. C'est le phénomène assez curieux. Et dans ce phénomène donc curieux de développement du bilingue public dans les HLM, c'est essentiellement, et c'est toujours essentiellement, une population non bascophone, et également une population mixte, c'est-à-dire du cru, venant d'ailleurs. Également, comme les premières sections étaient en zone urbaine de HLM, eh bien, il y a eu très rapidement cette mixité sociale qui est un petit peu les principes de base de l'école publique. C'est-à-dire que tout simplement, la bourgeoisie des centres-villes, des centres urbains, en particulier voilà, de Biarritz par exemple, allait amener leurs enfants au bilingue à Pétricot, qui est le quartier HLM. Même chose sur Bayonne, où ils rejoignaient l'école du Polo, qui était aussi quartier HLM. Même chose sur Saint-Jean-de-Luz avec Rourdassouris, et en Daï, il y avait le quartier Auriou. Ensuite, le développement en zone urbaine est allé de l'avant. Et est venu plus lentement, très curieusement, dans les zones rurales, en particulier en Basse-Navarre et en Soule, l'enseignement en langue basque en général, pas uniquement à l'école publique, mais également à l'école catholique et dans les écastolas, s'est développé plus tard, dans une deuxième phase. Tout simplement parce qu'il y avait encore une transmission familiale assez forte dans les familles, dans beaucoup de familles, ici elle est encore présente, heureusement. Et puis on se demandait tout simplement, Stéphane en parlera tout à l'heure, mais voilà, les mathématiques, pourquoi apprendre les mathématiques en basque, voilà, par exemple, ou les sciences, l'histoire-géographie, voilà, les disciplines dites non linguistiques. Voilà. Donc c'était un petit peu, voilà, et ce retard, entre guillemets, est peu à peu rattrapé. Il y a actuellement, sur l'ensemble des modèles d'enseignement en basque, un tiers des enfants qui sont scolarisés en langue basque. Donc, public, Castola et école catholique. Sur le public, c'est un tiers également des enfants de l'école publique qui sont scolarisés en langue basque. Et l'école publique bilingue est par contre largement majoritaire en Pays basque, puisque sur 5 enfants scolarisés en langue basque, 3 le sont à l'école publique, 1 à l'Icastola, 1 dans le pays catholique. Voilà. En clair, donc, tout simplement, l'école publique, c'est l'école choisie majoritairement par la population. 7 enfants sur 10 le sont à l'école publique. Et la Soule ne change pas dans ses variations, on va dire, statistiques. Et donc, avant de démarrer, je voulais juste vous présenter la situation de la Soule dans la démographie scolaire, on va dire, linguistique. Vous avez en rouge, on va peut-être essayer d'éclaircir. En rouge, la population scolaire unilingue en Soule, dans les deux cantons donc de Mauléon et Haute-Soule, et en vert, la population scolaire en langue basque. La population scolaire de l'école publique, on voit ici public unilingue et public bilingue, c'est 74% de la population scolaire. On est à 3 enfants sur 4 qui sont scolarisés à l'école publique. Alors évidemment, en matière de sociolinguistique, de récupération d'une langue, qu'est-ce qui fait récupérer une langue? Avant tout, c'est le nombre. C'est la quantité de locuteurs. Et il est évident que la quantité de locuteurs, en priorité, elle est forcément là où les gens choisissent de mettre leur enfant. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, il y a deux autres modèles d'enseignement qui est le Castola, qui ici représente 14%, qui est un bon taux, puisque la moyenne au niveau de l'ensemble du Pays basque, c'est 8,5% de la population scolaire. C'est un taux relativement faible, on va dire. Et là, ici en dessous, on est sur 14%, c'est pas mal. Par contre, la vérification, c'est qu'elle varie avec l'école catholique. L'école catholique bilingue, on le voit, 22 enfants, ça c'est à Alsaï, 2% uniquement, puisqu'ici à Montléon, l'enseignement catholique ne propose pas d'enseignement bilingue en langue basque. Voilà. Et le privé catholique, on va dire, globalement, représente en dessous de 12%. Il est en moyenne de 20%, hein, 22% sur l'ensemble du pays basque. Donc, je vous confirme que la Soule est quand même un pays très rouge, puisqu'il y a une vocation école publique très très forte chez vous, lorsqu'on voit la situation notamment de l'enseignement catholique. Voilà, c'est un phénomène un peu curieux, puisqu'en Basse-Navarre, qui est un peu voilà, une typologie rurale et très basque également, forte identité basque, eh bien on a des typologies un peu différentes, mais c'est vrai que l'enseignement catholique, on va dire, mise beaucoup plus sur la côte que sur l'intérieur. Ça c'est leur politique. Et ensuite, donc, cette situation. Alors, ça veut dire que pour les locuteurs de demain, c'est-à-dire ces jeunes-là, ce sont les locuteurs de demain, eh bien, on peut estimer que, on le voit depuis une dizaine d'années, c'est une progression qui est constante, ce verbe, depuis une dizaine, quinzaine d'années à peu près, c'est quand même très récent. On voit quand même qu'il y a un certain espoir dans la récupération de la langue, puisqu'on est quand même sur quasiment la moitié de la population scolaire qui peu à peu rentre dans le dispositif langue basque. Mais quand même, petite inquiétude, on a deux zones en Soule qui sont quand même affectées et menacées, où le basque est menacé de disparition. Il ne faut pas s'en cacher. C'est la Haute-Soule, voilà, où là, la situation de la langue à l'école, bien, elle est très faible. Hein. Il y a un seul établissement public, donc 33 enfants, Unikashkula 30 enfants et Altsaï 22 enfants. Voilà. C'est pas avec cette quantité-là qu'on récupère une langue lorsqu'elle est plus transmise dans les maisons, ce qui est le cas dans une partie des maisons d'Haute-Soule. Et autre problématique sur Montléon, c'est enfin le canton, c'est la ceinture qui entoure, on va de Carinder jusqu'à Gauter en verso Gauter. Là également, c'est un grand vide. Voilà, c'est un grand vide au niveau scolaire. Il n'y a pas d'enseignement bilingue là où c'est essentiellement de l'école publique, comme d'ailleurs la Haute-Soule. Majoritairement, c'est aussi de l'école publique. Et là, il y a un grand vide. Donc, espoir, cette partie-là, là, vous verrez la moitié pleine, et puis la bouteille à moitié vide. Un travail à mener sur ce type de population. Voilà, c'est la conscience tout simplement qu'une langue elle doit vivre, et pour ça il faut qu'elle ait des locuteurs. Et pour ça, eh bien, aujourd'hui, les locuteurs passent évidemment par l'école. Voilà. La maison, la transmission familiale ne suffit plus à ce qu'il y ait des locuteurs, parce qu'on demande maintenant aux locuteurs d'avoir une capacité écrite dans la langue, que évidemment, tant en français qu'en basque, eh bien, ils auront forcément à l'école et non pas à la maison. Hein. Le phénomène de la linguistique, il s'est affiné, tout simplement, pour quelle raison? Alors c'était pas évident, lorsque nous on a démarré, on est pionniers, quelques-uns, certains, enfin pas moi, mais d'autres, et moi j'ai suivi Cajbi depuis, ça fait 15 d'années que j'y suis, et bien c'est vrai que pour nous c'était peut-être moins évident avant que maintenant. L'école, en langue basque, en bilingue, crée des locuteurs, oui, c'est bien pour la langue, pédagogiquement c'est bien aussi, mais en dehors de ça on ne voyait pas trop l'utilité. Maintenant, le locuteur qui sait écrire, il a une vocation aussi à devenir éventuellement à pouvoir bénéficier de certains emplois. Voilà. Alors on pense évidemment, au début c'était que des emplois, on va dire, de bac plus, hein, c'est-à-dire enseignant, journaliste, essentiellement ces catégories-là. Et maintenant, on passe dans une autre catégorie beaucoup plus élargie, qui est dans le secteur de la petite enfance, c'est le service à la personne pour les personnes âgées. Et là, quand il y a une crèche, évidemment, il y a des bacs plus, ça va être la puéricultrice, qui est une dans une crèche, seule, unique, celle la directrice parfois. Et ensuite, eh bien, il y a le personnel qui qui lui n'a pas spécialement le bac, mais qui a une formation professionnelle ou technologique, qui représente donc des aides puéricultrices, le personnel environnant. Même chose sur les écoles, quand se sont développés donc, l'enseignement bilingue, on pensait au départ qu'aux enseignants, et puis finalement, il y a des emplois qui se sont créés, ce sont les ATSEM. Les ATSEM existaient, mais il fallait des ATSEM bascophones, et partant de là, s'est développée une opportunité aussi d'emploi pour des jeunes qui, tout simplement, ont vocation à travailler. Troisième vecteur d'emploi qui n'est pas celui des services, qui est celui émergent de l'industrie. Alors ici, évidemment, à Ansoul, vous y êtes particulièrement sensible parce qu'il y a une tradition industrielle qui perdure et qui est solide. C'est donc là, on rentre dans la stratégie de relations transfrontalières. Et c'est vrai que là, notamment dans le secteur coopératif Mondragon, par exemple, pour ne pas le citer, ou d'autres secteurs sur Demange-Tia, en haute technologie, eh bien, certes, l'espagnol est important, certes, l'anglais est important, mais le basque est un élément clé de relations de confiance, on va dire, et d'échanges, tout simplement, parce que quand vous allez à Donostia, que vous parlez le basque, eh bien, vous n'êtes pas un gabacho, vous êtes un chkoldoun, voilà, tout simplement. Donc, dessus, dans la relation commerciale et d'échanges d'entreprise, même si l'essentiel de l'échange va se faire en espagnol ou en anglais, eh bien, de suite, la relation est beaucoup plus simple. Certains commerces ont bien compris sur Saint-Jean-de-Luz, ce sont des très très bons, de très très bons commerçants qui ont toujours tenté depuis plusieurs années et réussi à recruter des gens qui non seulement ont maîtrisé l'espagnol mais aussi le basque pour attirer tout simplement la clientèle du Guipuscoa qui était bascophone. Ça c'est une nouvelle réalité qui a 20 ans on ne connaissait pas, en 30 ans en tout cas, mais qui compte effectivement. Alors, je voudrais vous présenter donc Stéphane Bruel, voilà, en deux mots très rapidement, il pourra le faire lui-même mieux que moi. Stéphane Bruel donc, vient de l'université de Genève. Là, il est professeur donc, à l'université de Genève, a fait une thèse sur, c'est un linguiste, une thèse donc sur les langues en contact, sillonne, on va dire, l'Europe et le monde même. Il était en Laponie il y a quelque temps, il sera au Japon après nous. Voilà, donc on est dans un parcours quand même assez... Entre la Laponie et le Japon, ben, il y a Jukaleria, c'est quand même pas mal, et la Soule en particulier, voilà. Et donc, Stéphane fait partie du département de langue et culture française à l'étranger, autrement dit, un département qui travaille sur le bi- et plurilinguisme, basé donc sur la langue française, langue 2, avec donc des langues locales, nationales ou internationales. Voilà. Il n'y a pas de frontières entre les langues, on le verra tout à l'heure.